France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Un quart des Français passent moins d'une heure par semaine au contact de la nature, surtout par manque de temps. C'est ce qui ressort d'une enquête réalisée par l'Institut Epsilon à l'occasion de l'Université de la Terre qui vient de se tenir à l'UNESCO. La distance géographique séparant les êtres humains de la nature s'allonge. Elle est de 16 km en France métropolitaine. Et pourtant, toutes les études disent aussi que nous voulons plus de nature, nous voulons aller à la campagne. Et nous en avons besoin. Voilà qui n'étonnera pas mon invité du jour. Botaniste, il a passé sa vie à étudier la forêt, à la défendre aussi. Francis Allais est dans les midis de culture aujourd'hui. Bonjour Francis Allais.
Bonjour.
Et bienvenue dans les midis de culture. Je suis très très contente de vous recevoir. Vous passez combien de temps par jour dans la nature aujourd'hui ?
Ma nature à moi, c'est les tropiques. Alors, c'est pas quotidien, voilà, c'est dommage.
Mais dans la vie de tous les jours, vous habitez plutôt à la campagne, vous êtes...
Oui, à la campagne, oui, près de Montpellier.
Vous en avez besoin aussi.
Oh, bah, bien entendu.
Alors, vous venez nous voir parce que vous venez de publier une bande dessinée chez Albin Michel, Le génie de la forêt, coécrite avec Vincent Zabu et illustrée par Nicobi. Merveilleuse BD où vous nous faites partager votre amour de la forêt, puis l'urgence aussi qu'il y a à la protéger, à la sauver. C'est une BD pédagogique dont le fil est en fait un dialogue imaginaire entre vous et Aristote, le philosophe. Et en gros, dès le début, vous lui dites qu'il a tout faux, en fait, Aristote.
Écoutez, je voudrais revenir un petit peu sur ce débat avec Aristote, parce que j'ai rien contre Aristote. Ce qui me gêne, c'est ceux qui ont récupéré ses idées et qui les ont amenées jusque maintenant. Voilà, c'est ça les coupables.
Alors, quels sont les concepts qui ont été détournés de la pensée d'Aristote pour arriver à quelque chose qui vous paraît délétère pour le vivant ?
Ah ben, vous allez dire, je prêche un peu pour ma paroisse, moi je suis botaniste, mais il met les plantes tout en bas. Non, il met les roches tout en bas.
Oui, les minéraux.
Puis les plantes, puis les animaux, puis l'être humain. Mais ça, c'est de l'autopromotion.
C'est vrai.
L'être humain, il est seulement capable de foutre tout ça en l'air.
Ouais.
C'est d'ailleurs exactement ce qu'il est en train de faire.
Et vous, Francis, allez dans ce livre, donc vous discutez avec Aristote et vous allez l'amener à voir tout ce qu'il y a à voir. Et la première chose dont vous parlez quasiment dès les premières pages du livre, vous qui êtes scientifique, vous qui êtes botaniste, vous parlez de quoi ? Vous parlez de la beauté.
C'est très important.
Et voilà, Vous considérez que la beauté devrait être plus prise en compte par la science ?
Mais elle ne l'est pas. Attendez, c'est pire que ça. Un scientifique qui aurait le culot de marquer un jugement esthétique ou le terme de beauté dans un article, interdit de publication.
Parce que,
bon, il y a pas mal de raisons, mais c'est censé être subjectif. Et c'est pas pris au sérieux par la science. Parce que j'utilise l'imparfait, hein, ça n'avait pas de signification biologique. Et moi, j'en ai trouvé une. Voilà. Donc là, je pense que le statut de la beauté, si tout va bien, il va s'améliorer.
Alors, quelle signification biologique a la beauté d'un arbre ?
Je voudrais d'abord dire que la beauté, elle existe, on l'a tous vue. Même ceux qui veulent pas en entendre parler, ils l'ont vue. Alors, c'est assez étonnant. Si ça fait partie du réel, ça veut dire que les scientifiques, dans le réel, ils font deux parties. Une partie qu'ils étudient et l'autre partie qu'ils préfèrent ignorer. Moi, ça ne me convient pas. La beauté, j'y tiens beaucoup. Voilà.
Alors, oui, elle a une signification biologique, la beauté,
oui,
dans la nature.
C'est un peu technique. Vous prenez une lignée monophylétique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a des ancêtres, pas très nombreux, puis ça grandit parce qu'il y en a de plus en plus d'espèces. Ça culmine et puis ça finit par s'arrêter parce qu'il n'y a pas de lignée qui soit éternelle. Eh bien, les ancêtres, ils sont très sympathiques et très intéressants, mais très laids. Au milieu, là où c'est le plus large, il reste encore pas mal de laideur, mais la beauté apparaît. C'est une propriété émergente. Et si vous l'allez jusqu'au bout, c'est-à-dire peu avant l'extinction de la lignée, la beauté, elle domine. Et la laideur, elle a disparu. Vous savez, c'est un peu comme un artisan qui fait un outil pour la première fois. Eh bien, le résultat n'est pas très beau au début. Et puis le mec, il insiste, il fait des tas de tests jusqu'à ce que tout marche bien. Eh bien, au bout d'un certain nombre d'années, le même objet, il est beau. Les instruments de musique, c'est typique. Les bateaux à voile également.
Donc une plante qui est belle, c'est qu'elle arrive à une forme
c'est,
de...
C'est qu'elle a évolué pendant longtemps.
Voilà.
Voilà.
Le grand contact, pardon, le grand constat que vous faites, c'est que on ne connaît pas la forêt, on ne connaît pas les arbres,
ouais,
et pourtant on les aime.
Mais on peut les aimer sans les connaître, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. Mmh. Non, attendez, les choses élémentaires chez les arbres qui nous échappent totalement, un truc très simple. Vous coupez une branche, est-ce que ça lui fait mal ou pas? Eh ben, on ne sait pas. Il y a des arguments pour, il y a des arguments contre, donc il vaut mieux dire qu'on ne sait pas. Mais c'est plein de choses qu'on ne sait pas.
Parce qu'on ne recherche pas.
Il y a pas mal de recherches sur les forêts, mais vous savez, c'est ce qu'il y a de plus compliqué sur la planète, une forêt.
Pourquoi ?
Ben parce qu'il y a énormément de plantes et énormément d'animaux et tout ça, et c'est pas séparé, c'est lié.
Mais ce que vous dénoncez dans le livre, c'est qu'on ne sait pas regarder aussi. On ne
ah
sait
oui,
pas regarder
vrai,
la forêt, oui. On ne sait pas s'y intéresser, et surtout, et ça rejoint ce que avait établi Aristote, c'est que surtout on a tendance à avoir beaucoup plus d'empathie pour les animaux.
Ça me fait marrer. Mais c'est parce qu'on est des animaux nous-mêmes. Non mais il a raison Aristote, quand je vois mes petits-enfants... devant un chêne où il y a un écureuil, alors là l'écureuil il échappe pas à leur regard. En plus, faut aller vite parce qu'il va se barrer. Ce qui fait du tort aux arbres, je vais vous dire, c'est qu'ils risquent pas de se barrer.
Ouais.
Donc on se dit oui, je pourrais l'étudier aujourd'hui, mais j'ai un peu la flemme, j'ai autre chose à faire, je ferai ça demain. Et puis on le fait pas.
Et c'est aussi de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à des animaux parce qu'on a le sentiment, on leur projette des sentiments qu'on ne projette
non,
pas sur les... Sur
c'est
les...
pas ça, c'est parce qu'on est nous-mêmes des animaux.
Ouais.
Donc c'est normal qu'on s'intéresse à des formes vivantes qui sont pratiquement nos cousins. Et... C'est pas le cas avec les plantes.
Je le disais au début de l'entretien, vous pointez du doigt aussi le fait qu'il y a urgence, c'est ce qu'on sent dans votre bande dessinée. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé là à un point de non-retour ?
Je le crains. En tout cas, si on n'est pas arrivé, on n'est pas loin du tout.
Mmh.
On s'inquiète, par exemple, sur la déforestation en France. On a raison, hein, parce que la situation, elle n'est pas bonne. Mais ce n'est pas très important par rapport à la déforestation tropicale. Parce que dans les tropiques, les forêts, il n'y a pas de saison. Donc les forêts, elles travaillent toute l'année. Et il y a infiniment plus de biodiversité. Donc détruire un hectare de forêt tropicale, c'est bien plus grave que de détruire un hectare de forêt chez nous.
Mmh.
Mais ça, ça passe pas du tout dans la tête des gens. Les tropiques, on s'en fout, c'est loin. C'est fait pour être exploité, etc.
Alors cette BD, à mon homme la vie, elle est dans ce cas-là d'utilité publique. Parce que c'est la question que vous vous posez dans la bande dessinée. Comment faire comprendre? Comment ouvrir les yeux des gens? Et je pense que cette bande dessinée peut vraiment avoir une fonction importante. Parce que vous êtes le meilleur promoteur de la forêt, d'une part. Et de ce que vous appelez l'intelligence des arbres.
Oui. Ça aurait fait rigoler tout le monde il y a 30 ans de parler d'intelligence d'une plante. Mais les résultats vont très vite dans ce domaine-là. Bon, je suis pas sûr que ce soit le bon moment de parler d'intelligence des plantes, mais c'est devenu un sujet de recherche dans le monde entier, parce qu'il y a des choses incroyables qui apparaissent.
Et c'est ce que vous montrez un peu, et moi je veux bien qu'on le développe un petit peu avec vous. Par exemple, vous dites que les plantes communiquent, vous évoquez ces cyprès qui sont capables de se prévenir les uns les autres de l'arrivée d'un incendie,
d'un feu,
ouais.
Et ils brûlent pas parce que dès qu'ils chauffent un peu, enfin ils sont pas encore sur le point de brûler, ils chauffent un peu, ils envoient dans l'atmosphère tout ce qui en eux pourrait brûler sur le plan chimique. Des alcools, des terpènes, du xylol, des hydrocarbures, etc. Tout ça part dans l'atmosphère. Bon, le feu arrive et le cyprès, il est comme un sac en plastique plein d'eau.
Mmh.
Il brûle pas.
C'est le dégazage, c'est ça, voilà.
C'est le dégazage. Mais le plus intéressant, c'est que ces molécules qui sont parties dans l'atmosphère, elles descendent le vent. Et donc, elles vont arriver sur des cyprès qui sont encore très loin du feu. Ils dégazent.
C'est ça.
Le feu va leur parvenir, mais ça leur fait pas de mal.
C'est-à-dire que les premiers cyprès ont fait les vigies et ont communiqué avec ceux qui sont derrière. Vous parlez aussi, par exemple, de ces lianes qui anticipent la position du tuteur pour pouvoir s'accrocher. C'est incroyable, cette histoire.
Ah oui, c'est très, très curieux. Je ne sais pas si je peux vous le faire par geste.
Alors, on va essayer de le faire par parole.
D'accord. Alors, vous prenez une liane. En l'occurrence, c'est une jeune passiflore. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose,
oui,
des
oui,
passiflores, maracuja.
Oui.
Ouais. Bon. Et puis, elle est toute jeune. Elle cherche un support. Vous lui mettez un support en face d'elle. Elle envoie une vrille. Et juste avant que la vrille touche le support, vous décalez le support de 5 cm à droite. Elle ne doit pas vous bénir parce que la vrille, elle ne sert qu'une fois. Bon, donc il faut attendre le temps qu'elle mette en place une deuxième vrille. Et juste avant que ça touche le support, vous le déplacez de 5 cm vers la droite. Alors la pauvre Liane, elle n'arrive pas à grimper. Mais elle vous déteste. Et ce qui est très drôle, c'est que après avoir déplacé le support 4 ou 5 fois, elle vise 5 cm à droite.
C'est-à-dire qu'elle va plus loin, elle se dit, il va encore le déplacer. Ou...
Elle a compris qu'on se foutait d'elle.
Ouais.
Et elle a trouvé la parade.
C'est incroyable.
Et ça suppose une anticipation. Enfin, elle sait ce qui va se passer.
Et on a réussi là à comprendre, on a constaté ce mécanisme. Est-ce qu'on le comprend biologiquement?
Non. Voilà. L'intelligence des plantes, pour l'instant, hein, c'est des constatations. Mm-hmm. Il y en a d'extraordinaires.
Oui, il y en a d'autres. Vous parlez aussi, par exemple, au Japon, de ces arbres qui prévoient les tremblements de terre.
Oui, c'est très étonnant. C'est un collègue japonais qui est sismologue qui a trouvé ça. C'est très bizarre parce que les arbres, ça ne craint pas les tremblements de terre. Généralement, ils s'en foutent. Mmh. Et bien, c'est eux qui savent les détecter.
Alors, comment on s'en est rendu compte, hein, comment on a pu mesurer
ça? Ce collègue japonais, Yoshiharu Saito, il met une électrode sous l'écorce du tronc et une autre électrode entre les racines au bout d'un piquet, tout simplement. Mmh. Les deux électrodes sont reliées à une table traçante. Et si vous avez une sinusoïde régulière, pas de problème, vous pouvez aller travailler, il n'y aura pas de séisme aujourd'hui. Par contre, si c'est une courbe complètement folle, il n'y a aucun moyen de se tromper. Hein. La courbe est complètement... Bref, là, attention, un séisme est en marche. Ça ne vous indique pas le temps qui vous reste. Mmh. Parce que la distance à l'épicentre, on la connaît pas. Mais
ouais.
Par contre, vous avez au minimum le temps de sortir de chez vous.
Mmh.
Et d'être dans la rue. Mais vous savez que c'est ça qui sauve les gens.
Bien sûr.
Ils sont tués chez eux. Souvent dans leur lit. Enfin, c'est dramatique. C'est cette mortalité due au tremblement de terre.
Ouais, ouais. Un dernier petit exemple. Non, j'en ai pas d'autres. On va peut-être passer à autre chose, si vous voulez bien. Excusez-moi.
Je voudrais vous faire écouter. Vous en trouvez
autant
que vous
voulez.
Oui, je sais,
vous en avez plein, vous. Je voudrais vous faire écouter un autre amoureux des arbres. C'est Thomas Braille. Il est arboriste, grimpeur. Vous savez qui c'est. Militant écologiste. Il a fait une grève de la faim pour s'opposer au projet d'autoroute A69, dont le chantier d'ailleurs est suspendu à l'heure actuelle. On l'écoute.
Moi, je ne suis pas un extrémiste de l'arbre. Par contre, quand je vois des arbres qui sont abattus, qui n'auraient pas vocation à l'être, comme les arbres d'alignement sur le bord des routes, ça me rend triste, en fait. Parce que c'est de la perte gratuite. Et je suis encore plus sensible quand je passe du temps à alerter, à dire que certains arbres, là, il ne faut pas les abattre. Et que quand on n'a pas entendu le message et que je vois les tronçonneuses en action, quand je vois les forces de l'ordre qui bloquent, et que je vois que l'arbre tombe, alors qu'on a alerté sur le fait qu'il fallait le garder, cet arbre, bon sang, il faut le garder. Là, en fait, il y a une colère intérieure qui peut me faire monter les larmes, ouais, parce que ça me rend triste de voir que l'homme, il n'a pas compris qu'il vient de se tirer une balle dans le pied. Ouais, franchement, j'ai l'impression qu'on m'arrache un bout de moi, ouais. C'est comme ça.
Thomas Braille sur France Culture en mars 2024. Cette colère, ce désespoir hein, dont il parle, avoir coupé des arbres, vous le ressentez vous aussi, Francis?
Bien entendu, mais depuis l'époque où j'étais enfant.
Ouais.
Parce que la déforestation des tropiques, des forêts tropicales, hein, ça je l'ai vécu, c'est monstrueux, c'est un espèce de viol. Et le fric que ça rapporte, ça ne va pas au pays, ça ne va pas aux gens du pays, ça va à des grosses boîtes... Des régions tempérées, États-Unis, Europe, Japon.
Mmh. Donc, comme vous le dites,
c'est un vol en même temps.
Oui, ça dure depuis très longtemps. Qu'est-ce que vous pensez, vous, justement, du regain de ces luttes écologistes qui peuvent aller vers l'occupation des lieux, vers des ZAD, parfois aller à la confrontation face à la situation. Comment vous regardez ces mouvements militants ?
Écoutez, j'ai constaté que les écologistes étaient très maladroits. Ça s'améliore, hein. Mais au départ, ils étaient moralisateurs et on les a tout de suite catalogués comme des emmerdeurs, ce qu'ils étaient réellement. Mais ça, c'est il y a 10-15 ans. Maintenant, c'est mieux. C'est pas encore parfait. Les écologistes, ils n'aiment pas se mettre à la portée du grand public et expliquer pourquoi il faut faire attention. J'en discute souvent avec Thomas Brel, on est très copains. Et ben lui, c'est un homme d'action, il monte dans les arbres. Mais ça vaudrait le coup de passer un peu de temps à expliquer pourquoi tous les arbres sont utiles. Même en couper un, c'est pas innocent. Voilà.
Et vous comprenez l'éco-anxiété dont tout le monde parle, qui touche notamment les jeunes générations, qui voient la situation se dégrader et qui pensent à leur avenir proche d'ailleurs.
Je constate que mes petits-enfants, qui auraient l'âge d'avoir des enfants, ils préfèrent ne pas en faire. Alors ça me gêne un peu, mais je me dis que si j'étais à leur place, je comprendrais ça très bien. On est devant une situation mondiale qui n'est pas bonne du tout. C'est peut-être pas le moment de faire des enfants. D'autant plus qu'on n'est pas à court de population sur cette planète.
C'est sûr. Votre grand rêve, Francis Allais, c'est de recréer une forêt primaire en Europe de l'Ouest.
C'est gentil, mais n'utilisez pas ce terme de recréer.
Dites-moi, expliquez-moi.
Je ne suis pas un créateur.
Ouais.
La forêt primaire, elle se fait toute seule. Elle se fait toute seule. Vous laissez simplement un espace assez grand sans y toucher, avec de la terre honnête. Elle va venir toute seule, la forêt. On réalise pas, mais il y a une pluie de graines tellement grande que c'est impossible que chaque graine donne un arbre. Il n'y a pas matériellement la place. Donc il va se faire une sélection. Et même la sélection, elle se fait toute seule. Surtout, ne nous en occupons pas.
Donc pendant quelques centaines d'années ?
Alors quelques siècles, oui. Pour passer d'une forêt secondaire à une forêt primaire, nous savons très bien que ça peut se faire. Mais c'est long, ça se compte en siècles. Alors évidemment, ça dépend de l'âge de la forêt du départ. Mais supposer qu'on trouve une forêt de départ de 3 siècles, ça me paraît tout à fait envisageable, il manquera 7 siècles. La belle affaire, le temps passe tout seul. La forêt, elle n'a pas besoin de nous, elle se porte beaucoup mieux quand on ne s'en occupe pas. Eh bien, 7 siècles, on est entouré de forêts qui ont vécu 7 siècles. Seulement, comme elles sont exploitées, elles ne sont pas devenues primaires.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler rapidement ce que veut dire une forêt primaire ?
Oui, volontiers. C'est pas un concept très facile, parce que comme il n'y en a plus en Europe...
Il y a part en Pologne, il en reste un peu ?
Alors oui, mais alors elle est très menacée. C'est magnifique, il faut encore y aller, mais c'est devenu une zone de guerre, donc on est un peu inquiet là-dessus. C'est une forêt primaire, c'est une forêt qui n'a plus aucune trace d'activité humaine, ni récente, ni ancienne. Donc, quand on aura notre point de chute, ce qui va pas tarder, la première chose à faire, ça va être de retirer toutes les traces d'activité humaine. Il y aura plus de bancs, il y aura plus de sentiers, il y aura plus de clôtures, il y aura plus de panneaux pédagogiques qui m'emmerdent. Alors là, je serais très content de les enlever moi-même. Mais voilà, il faut retirer toute trace d'activité humaine.
Et on en est où de ce projet, alors ?
Eh ben, ça marche. Je pense que cette année... Si tout va bien, oui, 2025, on aura déjà un site où commencer à travailler. Un site qui ne sera pas les 70 000 hectares qu'on voudrait, mais ça va grandir.
Et ce serait vers où ? Alors, c'est toujours dans l'Ouest, à cheval sur plusieurs pays ?
Alors, c'est transfrontalier parce que c'est un projet européen. Donc, c'est dans les Ardennes, entre la Belgique et la France, ou dans les Vosges du Nord, entre l'Allemagne et la France. Peut-être les deux. Puis maintenant, je m'aperçois que le Luxembourg, qui est entre les Ardennes et les Vosges, ça les intéresse énormément.
Ils ont des très belles forêts aussi.
Ils ont des très belles forêts et ils ne s'en servent absolument pas parce qu'ils ont des moyens financiers sur lesquels je ne vais pas m'étendre.
Donc là, oui, là, les arbres ne les intéressent pas.
Non, absolument pas. Pour eux, ça les fait rigoler d'exploiter une forêt.
Alors, je vais faire exactement ce que vous dénoncez. Je vais aborder la question sous un angle utilitaire et vous dire à quoi ça sert de faire une forêt primaire.
Ça ne va pas réduire l'utilisation du bois. 70 000 hectares, mes collègues écologistes me disent « mais c'est gigantesque, c'est monstrueux ». Non, c'est un carré de 26 km de côté. Et moi, j'ai une référence méditerranéenne, puisque j'habite au bord de la Méditerranée, l'île de Minorque, dans les Baléares. Pas Majorque, Minorque. Un tout petit point sur la carte de Méditerranée. Voilà, ben c'est 70 000 hectares. Alors, faut pas me dire que c'est trop grand. La réalité, c'est que si les entreprises des écologistes ne marchaient pas, c'est que c'était trop petit.
Ah, il fallait avoir plus d'ambition, en fait.
Oui, voilà. En fait, là, on retrouve une ambition qui est celle de la nature elle-même. Je le dis pour la surface, je le dis aussi pour le temps. 7 siècles. On me dit, mais c'est fou, 7 siècles. Mais pourquoi fou, le temps, il passe? Et il passe gratuitement.
Qu'est-ce qui va se passer au bout de 7 siècles?
On aura une forêt primaire.
Et donc, des animaux
Attendez, les animaux, il n'y aura pas besoin d'attendre
oui,
si longtemps.
Oui, ils seront là très vite.
Je vous souvenais sans doute du confinement. À Montpellier, on avait les grands animaux sur la place centrale de la ville. Dès l'instant qu'ils comprennent qu'on ne les chasse pas... Ouais. Ça les intéresse beaucoup. Donc, en deux ans, notre projet, il méritera d'être visité. On marchera pas sur le sol, hein, parce que ça tasse les racines et ça fait mourir les arbres. On va marcher sur des petits caillebotis en bois, comme dans énormément de parcs nationaux. J'ai vu ça aux États-Unis, en Australie, etc. On ne marche pas sur le sol. Et c'est tout. Voilà.
Francis, allez, on va quitter un tout petit instant les sous-bois pour prendre un peu le large et on va écouter la navigatrice Isabelle Joschke. Elle parle de ce sentiment si particulier d'être perdue en pleine nature.
Pour moi, en mer, au large, il y a tout qui change. Il y a tout. Déjà, il y a la notion du temps. Moi, j'arrive pas à compter les jours. Même si c'est que 4 jours, j'arrive plus à compter. Au bout de 2 jours, je ne sais plus. Il y a quelque chose, comme quelque chose qui se détend, quoi. Au niveau de l'espace, bien sûr, puisqu'on est entouré de l'horizon, et tout ce qu'on voit, c'est des vagues. De temps en temps, on voit des dauphins, exceptionnellement, on peut croiser des baleines. Quelques oiseaux, c'est assez rare. Et puis après, il y a les vagues, il y a les nuages dans le ciel. Et c'est que ça. Et en fait, pour moi, il y a quelque chose qui s'élargit complètement et qui fait que les repères qu'on a à terre sont assez difficiles à garder en fait. En tout cas, moi quand je suis en mer, je sais que je suis complètement paumée de ce point de vue-là. J'ai besoin d'avoir une montre pas loin parce que sinon, même si je vois bien le soleil quand il est au zénith, mais il y a vraiment quelque chose en moi qui s'en fout.
La navigatrice Isabelle Joschke, c'était sur France Culture en 2020. Ce qu'elle décrit là, donc, c'est le fameux sentiment océanique.
Non, c'est ça n'a rien à voir. Non, excusez-moi. Mais...
Ah ben, dites-moi alors. Oui.
D'abord, je sympathise avec cette personne, parce que moi-même, j'ai beaucoup navigué à la voile.
C'est vrai?
Et donc, oui, ça a été mon premier métier. Hein.
D'accord.
Et donc, je participe complètement à ces sentiments.
Ce sentiment de ne plus voir le temps passer, d'être
oui.
juste là.
Juste
fait.
Là, oui. Alors, les forêts, c'est très différent, parce que le danger, c'est de se perdre. Mmh. Il n'y en a pas d'autre. Bon, j'exagère un peu, parce que s'il y a du vent très violent, il vaut mieux sortir le plus vite possible, sinon vous risquez de recevoir une branche ou de recevoir un arbre, tout simplement. Mmh. Voilà, il y a deux dangers, se perdre et pas se faire écraser. Mais sinon, c'est un peu le même sentiment, hein. On est au milieu de l'infini.
Alors, vous m'avez dit que c'était pas du tout ça, mais vous allez m'expliquer ce que c'est alors le sentiment océanique.
Non, c'est pas ça du tout.
D'accord.
C'est quelque chose que quelques personnes ont ressenti. Et ça se passe généralement à proximité d'une forêt ou au moins à proximité d'arbres. Tout d'un coup, mais vous contrôlez pas ça, tout d'un coup, vous avez un changement dans votre cerveau la forêt se rapproche, elle devient lumineuse. Mais le plus étonnant, c'est que vous en faites partie. Il n'y a plus de limite entre vous-même et la forêt, et les animaux de la forêt. Et ça nous remplit. Alors, ça a été écrit par des grands auteurs. Hein. Ça nous remplit d'un bonheur incroyable. Et c'est un bonheur qu'on garde toute sa vie.
Vous l'avez vécu ?
Oui.
C'était au Congo, c'est ça ?
C'était au Congo, oui. Oui. Mais quand j'en parle dans une salle, il y a généralement quelques personnes qui voient très bien ce que je veux dire. Mmh. Ce bonheur incroyable et le fait qu'on n'oublie jamais ce sentiment océanique, ça a été très bien décrit. Jack London, George Sand, etc., etc., des gens qui écrivaient très bien.
Mmh. Et quand vous dites, on est modifié pour toute sa vie, c'est ce que vous dites dans la bande dessinée.
Oui.
Qu'est-ce que ça a modifié en vous ?
L'idée que ça recommence.
Ah.
Malheureusement, on ne sait pas faire.
Vous n'avez pas réussi à le retrouver.
Mais c'est que vous ne contrôlez pas. Ça vous arrive dessus tout d'un coup. Et puis, l'ennui, c'est que ça disparaît aussi très vite. Mm-hmm. On n'a pas du tout envie que ça s'arrête. Mm-hmm. Le sentiment océanique, c'est très curieux.
Et ça ne revient pas forcément. Voilà, vous pouvez revenir au même endroit.
Non. Alors, il faut être seul, tranquille, dans du beau temps. Il faut que la situation soit agréable. Et tout d'un coup, vous y êtes.
Mm-hmm.
Et je vous le souhaite.
Ah oui, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien connaître ça.
Oui, ça n'a que des avantages.
Dans le livre, on sent, on vous voit comme je vous vois aujourd'hui. Vous êtes enjoué, dynamique et très, très, quelque part très positif. Et il y a des moments dans la bande dessinée où on vous montre parfois un peu accablé. Il y a des moments comme où vous
Ah ben l'ampleur des destructions sur les forêts, c'est comme Thomas Brel, ça me dégoûte. Et puis, effectivement, l'être humain, il se tire une balle dans le pied, mais il le sait pas.
Mm-hmm.
Les maires des villes coupent un arbre,
mm-hmm.
Ça les gêne pas. Mais enfin, c'est un être vivant, comme lui, comme vous et moi. Non, mais ça lui vient pas à l'idée, ça. Mm-hmm. En plus, c'est un être vivant dont nous avons besoin parce qu'il nous fait du bien. Non, mais ils n'ont pas compris ça.
Ils replantent un arbre plus jeune.
Ah oui, mais alors, l'arbre plus jeune, il remplira le même rôle écologique dans 25 ou 30 ans, ou 40 ans.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Francis Allais, d'être venu ici dans les Midi de Culture, le génie de la forêt, indispensable bande dessinée, coécrite avec Vincent Zabus, illustrée par Nico Bi et apparue chez Albin Michel, bande dessinée. Et nous, ça nous a donné envie d'écouter Marie Laforêt, bien sûr, viens sur la montagne.
Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Pourquoi ces pleurs dans tes yeux? Viens avec moi, viens. Laisse ici ton amour malheureux. Viens, ma maison n'est pas loin. Tout s'oublie, je suis là, prends ma main. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon.
Les Midi de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Zora Vignier, Zoé Coupé, Lise Ripoche, Tom Hundenstock, Boris Pinault, Aïssa Tundoy, Louis Cosnar. Elle est réalisée par Daphné Le Plon, avec à la technique François Saint-Jour.
Les fleurs et le vent. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon.